C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, avec mon collègue Adjane Chélil, on se pose la question, est-ce que moche is the new cool?
Ah, attention, bonjour Thibaut, comment ça va?
Ça va et toi?
Eh oui, ça va très bien, un sujet ultra intéressant. Hier, franchement, quand je préparais ces notes, j'avais du mal à m'arrêter de regarder, de chercher, de lire des trucs. C'est vraiment une tendance très profonde, je trouve, qui dit beaucoup de choses sur beaucoup d'aspects de notre métier. Donc du coup, bah, très hâte d'en parler avec toi, d'échanger un peu sur les différentes notes, hein, parce que je rappelle, quand on arrive là le matin, moi j'ai ce que j'ai bossé de mon côté, t'as ce que t'as bossé de ton côté, et puis là, on va discuter pour
exactement
voir où ça va, quoi.
Les ugly shoes, les claquettes chaussettes, les crocs, les graphismes de mauvais goût, les restaurants où les assiettes sont pas du tout instagrammables. Face à l'injonction des réseaux sociaux, au diktat peut-être même du toujours plus léché, le moche, peut-être aussi le mauvais goût, n'auront jamais été aussi cool. On va décrypter tout ça ensemble ce matin. Je te propose peut-être, avant de commencer, qu'on essaye de se poser une question quasi métaphysique. C'est quoi le moche?
Ouais, alors ça, c'est vraiment aussi la première un peu question que je me suis posée quand j'ai vu le titre. Je me suis dit à quoi ça me fait penser. Et ça me fait penser à un épisode qu'on a fait déjà il y a 2-3 ans, où justement, ça m'a permis de comprendre de quoi on allait parler aujourd'hui. Parce qu'il y a 2-3 ans, on parlait déjà de la fin d'un certain esthétisme Instagram, d'une certaine image parfaite, très lisse, et que les stories, notamment le format story, avaient ramené sur Instagram une volonté de brut, de spontané, de vraie vie. Il fallait que ça sente la vie, la vraie, celle que nous on vit aussi en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, et il fallait plus que ce soit quelque chose de complètement déconnecté de la réalité. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est pas exactement de ça qu'on va parler. Ça, c'est le côté effectivement brut, spontané, mais ça veut pas forcément dire le côté mauvais goût ou moche. C'est plutôt quelque chose d'autre. Et pour moi, alors à voir si toi, ça, tu as observé la même chose, pour moi, c'est un autre esthétisme en fait. C'est pas qu'il y a plus d'esthétisme, qu'on est dans quelque chose de très brut, c'est un autre esthétisme, ouais, qui se construit et qui vient fortement, je trouve, des années 2000.
Ouais, mais ça, c'est très intéressant, parce que qu'est-ce qui fait la laideur? Voilà, qu'est-ce qu'on peut appeler moche?
Et c'est après, pas... j'ai 2-3 exemples qui me viennent en tête.
Non, mais en fait, c'est pas si simple comme question, parce que la frontière entre ce qui te répugne et ce qui te plaît, elle est souvent très très mince, hein. Et il faut bien noter que le laid, ce n'est pas l'inverse de la beauté. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on trouve beau un jour, eh ben, il peut sembler laid le lendemain. Et surtout, une chose laide, elle peut autant nous fasciner qu'une chose magnifique. Je te donne quelques exemples.
Vas-y.
Picasso, par exemple, produit ses premières toiles cubistes. Tout le monde trouve ça horriblement laid. Voilà. Bon, évidemment, ouais, maintenant, la perception n'est pas tout à fait la même. Quand le centre Pompidou est inauguré en 1977, tout le monde trouve ça moche. Mais tout le monde, les articles de presse, les radios-trottoirs de Parisiens, tout le monde trouvait ça uniformément laid. Alors peut-être que les choses n'ont pas tout à fait changé concernant le centre Pompidou.
Ah non, il y a plein de gens qui trouvent ça superbe.
Mais ceci étant, voilà, attention, le moche, le mauvais goût peut être aussi fascinant que le beau.
Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, tout simplement. Et je trouve ça très intéressant ce que tu racontes, parce que pour moi, il y a quelque chose de très cyclique et de très mode en fait derrière tout ça, qui est venu après infuser et influencer plein d'autres choses. En fait, vas-y si tu veux.
Non, ce que je voulais dire, pour revenir sur cette notion de fascination,
ouais, vas-y,
qu'on peut avoir pour le mauvais goût, on a tous, je pense, au fond de nous, une sorte de fascination pour le kitsch, le mauvais goût,
ouais,
le burlesque, le moche, etc. Parfois c'est drôle, parfois c'est un peu répugnant, mais quand même attirant, c'est étrange, ouais, comme sensation qu'on peut avoir avec ça, à tel point d'ailleurs qu'il y a des comptes Instagram qui sont 100% dédiés au mauvais goût, et il y en a beaucoup. Un de mes préférés, si je peux vous le proposer ce matin, c'est Décor Hardcore, on vous met le lien en note de cet épisode.
Ah, j'irai voir.
C'est un compte Instagram 100% dédié au mauvais goût.
Décor en un mot ou en deux mots?
Décor, D-E-C-O-R.
Okay.
Voilà, si vous aimez comme moi, si vous vous posez souvent les questions, si vous pouvez passer des heures sur des feeds ou de choses qui sont objectivement laide mais fascinante, eh bien là vous avez un très bon compte Instagram pour passer du temps.
Pas mal, pas mal. Je vais aller voir ça.
Ce qu'on peut dire, c'est que l'industrie de la mode, hein, notamment, adore jouer entre cette lisière entre le bon et le mauvais goût.
Ouais, et puis je trouve que la mode, c'est quelque chose qui vient percevoir justement les signaux faibles d'une tendance qui va se développer. Et je trouve que après, là, on a passé quand même pas mal d'années sous le gros retour vintage des années 90, hein, qui n'était pas pour nous déplaire à tous les deux, hein, puisque on a grandi plus ou moins. Toi, tu as eu ton adolescence dans ces années-là. Moi, mon enfance, et ça représente plein de codes qui allaient avec le hip-hop notamment, etc., et qu'on adore. Mais petit à petit, bah, il faut s'y faire. Cette mode des années 90, elle est en train de changer un petit peu pour revenir à une influence très années 2000. Et qu'on se le dise clairement, la mode globale des années 2000, c'était quand même beaucoup, beaucoup de mauvais goût. Je m'explique, je vais donner des exemples, hein, c'est pas juste comme ça en claquant des doigts. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très rétro-futuriste en fait dans les années 2000. Il y a, tu sais, c'était l'année 2000, on savait pas le bug de l'an 2000, il y avait tout ça, il y avait l'arrivée d'Internet, il y avait plein de nouvelles choses. Et si vous regardez, bah, moi j'ai pris des clips musicaux de l'époque pour vous remettre un peu dans le bain. Les tenues vestimentaires sont très étranges. Il y a des réflecteurs de lumière sur les vêtements, il y a des excès de paillettes, il y a des matières très cheloues en latex total, etc. Je vous ai pris trois exemples. Vous pouvez aller vous regarder ça tranquillement. Il y a les liens dans les notes. Il y a le clip de Lady Gaga, Bad Romance, qui sort à la fin des années 2000 et qui est déjà bien chelou. On a le fameux Toxic de Britney Spears, gros classique des années 2000, style vestimentaire, bah là, ultra shiny, c'est des paillettes tenues par des fils, hein, qu'elle a sur le corps. C'est presque grossier, même dans la lumière du clip, dans la manière dont c'est fait. Il y a ce côté, tu vois, vraiment en mauvais goût. Et puis, le dernier, parce que j'avais quand même envie de parler de musique que j'écoute un petit peu plus, Eminem, The Real Slim Shady. Là, vous avez aussi un très très bon exemple de ce qu'on peut retrouver dans tout ce qui est mode des années 2000, même dans les scènes qui sont tournées à l'intérieur, c'est fait des espèces de petites scénettes. Tu vois tout de suite les styles vestimentaires, des hauts, des débardeurs en fourrure, tu vois, par exemple, ce genre de choses. Et je trouve que ce qui ressort, et je vais enchaîner directement avec cet exemple-là, qui ressort le mieux de ces années-là, et bah c'est les Crocs. Je trouve que les Crocs, c'est vraiment l'exemple le plus criant, c'est une entreprise de fabrication de chaussures, vous connaissez tous, qui a été créée en 2002, qui a été un phénomène dans les années 2000, qui s'est complètement éteint ensuite. On trouvait ça horriblement laid il y a quelques années encore, les Crocs. C'était vraiment, tu te disais, c'était des mamies qui vont porter ça. Et aujourd'hui, eh ben, ces chaussures sont en train de revenir de partout, matière plastique pourtant, etc. Mais bon, même le directeur artistique de Balenciaga a dit qu'il adorait. Justin Bieber en porte aisément et en fait la pub sur les réseaux. En 2021, bah, les ventes enregistrées ont fait des records. Sur les 4 prochaines années, elles pourraient atteindre 5 milliards de dollars pour Crocs, donc c'est vraiment une renaissance. Ils ont 1,4 million d'abonnés sur Instagram et leur grille Instagram, bah, elle est un petit peu à la sauce de ce qu'on peut raconter sur justement le mauvais goût, le moche. C'est que, en fait, il y a un peu toutes les couleurs sur leur grille Instagram. Il n'y a pas vraiment de ligne esthétique. Ça part un peu dans tous les sens. Et en fait, c'est un petit peu ce qui colle avec leur DA et avec ce que Crocs représente aussi. Donc, je crois que c'est aussi pour ça qu'on aime ça.
Ouais, là tu parles de Crocs. Et bizarrement, en fait, j'ai envie de parler de mode. Parce qu'en fait, l'industrie de la mode, je le disais, adore jouer avec cette lisière entre le bon et le mauvais goût. Pourquoi ? Parce que, en fait, finalement, le moche et le beau, ça n'existe pas vraiment en tant que tel.
Ouais.
Ce sont des constructions communautaires, hein, voire même peut-être de classe, hein. En tout cas, certains disent qu'on parlait de classe. Dans la mode, en fait, le mauvais goût, c'est aussi un moyen de résistance et peut-être même de rébellion face à une domination communautaire du bon goût. C'est ça qui est très intéressant. Le mauvais goût, il existe que face au bon goût. Mm. Et les deux, l'un comme l'autre, sont forcément dans le too much. Le bon goût, c'est trop. Le mauvais goût aussi. En gros, mettre des Crocs, puisque tu en parles, dans un contexte très chic, eh bien, c'est aussi un moyen subtil, finalement, de montrer d'une, sa compréhension des codes communautaires auxquels on appartient, en même temps qu'on les rejette. Parce que ça veut dire, je comprends que c'est du mauvais
choquer,
goût.
Je vais vous choquer.
Donc, choquer. Donc, il y a quand même vraiment cette notion-là. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, rapporté à la mode. C'est que,
carrément,
en même temps, ça dit beaucoup de la compréhension des codes tout en finalement les rejetant. En ce temps, en gros, c'est le mauvais goût dans certains cas, le moche. C'est un peu comme un doigt d'honneur pendant la photo de classe. C'est, je sais que je devrais pas, mais je vais,
quand même me le permettre.
Et je trouve ça intéressant. Et à ce titre, eh bien, il y a une marque, t'en as parlé tout à l'heure, qui est vraiment aujourd'hui le spécialiste du mauvais goût. C'est Balenciaga. Balenciaga, ils ont vraiment travaillé ça avec, puisque tu parlais de Crocs, cette collab qui dure maintenant depuis quelques années. Entre Balenciaga et Crocs, depuis 2017, eh bien, les deux marques collaborent de façon totalement inattendue, on pourrait penser, et surtout de façon provocante. Dernière folie en date, eh bien, cette Crocs à talons Balenciaga, proposée au prix modeste de 495 euros, donc vraiment positionnée comme un vrai produit
dans un vert très clean. Là, je la vois dans un vert très clean.
Exactement. Et puis, autre merveille de mauvais goût, aussi proposée par Balenciaga, la sneaker Defender. Alors j'ai eu l'occasion l'autre jour avec mon associé Rémi Rochon de la voir dans la vraie vie ici à Lyon, cette sneaker Defender qui est vraiment ce qu'on peut appeler la ugly shoe par excellence. Ouais. T'imagines un mélange entre une paire de Asics très bon marché noir et puis des pneus de motocross et tu colles les deux l'un avec l'autre.
Magnifique.
Et ça, c'est
la
une sneaker Defender vendue 850 euros s'il vous plaît. Et dans une interview récemment d'Alice Pfeiffer qui a édité un bouquin qui s'appelle Le goût du moche, voilà, donc c'est intéressant. Elle explique que revendiquer un goût pour le moche, c'est aussi jouer avec la temporalité de la mode, et ça je rebondis avec ce que tu disais tout à l'heure avec le retour des années 2000, comme c'est peut-être le beau de demain le moche, et eh bien ça donne l'impression que le beau d'aujourd'hui a déjà un pied dans le passé. En gros, tu peux, quand tu es en pleine possession de tes moyens stylistiques, on va dire, mettre du moche, c'est aussi un pied de nez de dire mais je suis déjà dans le futur, mec.
Ouais, en fait moi je suis déjà dans le beau voilà. Demain, tu vois, moi je suis le beau gosse de demain, quoi. Écoute, pour aller dans cette direction là de la mode et finir un peu moins là dessus il y a une marque quand même qui il y a quelques temps m'a un peu sauté aux yeux, je dirais. Mais ça fait déjà un moment que cette marque là est vraiment remontée, alors là dans toute l'Europe à la mode, mais notamment en France, c'est la marque Birkenstock. Pour moi, ça c'est vraiment la marque où quand j'ai vu des gens commencer à porter ces sandales, je me suis dit, ah, il y a d'autres personnes que les Allemands en vacances dans la Drôme, plein de coups de soleil, qui peuvent porter ce type de sandales en été. J'étais vraiment sous le choc. Et en fait, bah non, c'est la mode, c'est devenu la mode de partout. Tout le monde en porte. Dans les grandes villes, tu vois justement ce phénomène se faire. C'est 1 million d'abonnés sur Instagram. Par contre, contrairement un peu à Crocs, tu vois, dans les visuels utilisés, là on sent qu'il y a un esthétisme qui est recherché quand même dans l'ADN de la marque. On sent qu'il y a quelque chose de plus modeux, je dirais, et qui est moins justement dans cette contre-culture.
Oui,
et on assume moins le côté ok,
le doigt d'honneur. C'est pas le doigt d'honneur de Crocs, c'est vraiment une recherche d'aller se positionner là sur un nouveau marché. Tiens, je suis tombé sur une étude de Y-Pulse que je vous mets ici en note de cet épisode qui nous explique que les jeunes consommateurs ressentent clairement la fatigue de la perfection et recherchent un contenu plus authentique. Et à ce titre, l'étude elle nous précise que 70% des 13-36 ans considèrent comme cool de porter des vêtements qui étaient précédemment considérés comme moches. 70%, c'est quand même assez énorme. Je vous invite à aller regarder cette étude qui nous apprend beaucoup sur notre rapport au moche. Alors là, on a parlé du moche dans la mode. J'aimerais bien, par extension, qu'on parle du moche dans la food.
Allez, vas-y.
Voilà. Et là aussi, c'est une tendance en hausse dans le monde de la food. Il se murmure aussi que le moche pourrait prendre le train de la hype, une sorte de contre-coup du tout instagrammable. Avec un premier exemple, c'est le succès de cette série documentaire Netflix qui s'appelle Ugly Delicious. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la regarder.
Non, j'ai pas vu.
Eh bien, dans ce documentaire, on suit le chef David Chang qui part à la rencontre de plats populaires, simples, pas beaux, mais délicieux. Brutti ma buoni, comme disent les Italiens, c'est à l'air brut de décoffrage, mais très bon. Et c'est vraiment l'angle qui a été choisi par ce documentaire, donc c'est assez intéressant. Et puis, autre exemple, l'ascension dingue du Smash Burger. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Mais ça, je trouve ça très intéressant, parce que c'est fini l'époque du joli burger instagrammable, avec la belle feuille de laitue bien verte, le steak magnifiquement travaillé, la belle rondelles de tomates rouges. Non, tout ça, c'est fini. Place à un nouveau venu, bien moche, écrabouillé, hein, littéralement, dégoulinant. C'est le Smash Burger. Hein, et je suis allé faire un tour du côté de Google Trends pour me rendre compte, parce que moi, j'avais en perception, effectivement, le move qui était en train de se reproduire vers ce nouveau burger. Smash Burger, la recherche sur Google Trends, la recherche autour de Smash Burger, multiplié par 100 en France en un an.
Wow.
Je ne sais pas si on se rend compte. Et ça, je trouve ça là aussi très intéressant. Et
carrément,
pour continuer sur cette notion de burger, le goût plus que le beau, c'est aussi ce que défend Burger King, et notamment Burger King Japon, qui a sorti carrément un Ugly Burger. C'est le nom de leur hamburger.
Ils y sont allés complètement.
Voilà, et objectivement, c'est vrai que ce burger n'est pas beau. Voilà, vraiment. Et je pense qu'il fait partie du positionnement assumé de ce nouveau burger exclusivement disponible au Japon actuellement. Je trouve ça très intéressant et marrant.
Ouais, carrément. De toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve au final dans plein de facettes de ce qui fonctionne aujourd'hui dans notre société. Moi, je vais encore prendre un autre virage et vous parler de Jul, tout simplement, et de l'OVNI et de rap. On retrouve, pour moi, le rappeur Marcia Jul s'inscrit complètement dans cette tendance post-année 2000, là, influencé en tout cas par ces années-là. Très, je dirais, pas moche, mais grossier, en fait. C'est comme si on prenait un marqueur et on tirait un gros trait comme ça. Sur Instagram, c'est 3 millions d'abonnés. Bon, lui, comme beaucoup de rappeurs, il a une stratégie sur les réseaux sociaux qui est d'effacer tous ses contenus entre chaque album. Comme il en sort tous les 6 mois, bah, il est tout le temps en train d'avoir entre 1 et 5 posts sur Instagram. Donc en ce moment, vous ne retrouverez pas grand-chose de ses visuels sur Instagram directement. Mais déjà, si vous allez prendre rien que ces pochettes d'albums de Jul et que vous faites un peu le tour de ces pochettes, et bah, vous allez retrouver beaucoup de codes des années 2000 et beaucoup de codes un peu mauvais goût.
Mais déjà, même dans les lyrics, dans le game en claquette, dans le carré VIP en survêt, je veux dire, à peu près tout est dit sur, sur le culte, enfin en tout cas, assumer un relatif mauvais goût, en tout cas.
Sur l'aspect musical, il s'inspire beaucoup de choses qui viennent un peu de ces années 2000, hein, même dans la musique choisie, tu sais, quand il reprend Barbie Girl, qui est un tube de tout début des années 2000, il me semble, voilà, il est vraiment dans cette mouvance-là. Pour revenir à ses pochettes, on retrouve plein de montages assez grossiers, hein, sur ses pochettes. On se prend pas trop la tête, tu sais, c'est pas des belles photos bien léchées, une fois de plus, avec un esthétisme très lisse. Non, là, c'est un découpage de lui en Y sur une moto au milieu d'un quartier de Marseille, en fond, ou alors sinon, il y a beaucoup aussi de choses autour de l'espace, parce que lui, il s'appelle l'OVNI, donc du coup on joue sur des codes très 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 shiny comme ça, avec des étoiles, des néons et sa tête au milieu de l'infiniment grand des étoiles. Donc c'est assez intéressant de le prendre de ce côté-là. Et puis il y a aussi un petit côté technologique, hein. Il y a souvent des ordinateurs, des câbles, des trucs, donc ce côté un peu rétro-futuriste qui est aussi présent dans ces visuels. Sinon, je vous invite aussi à aller voir tout simplement tous ces clips, hein. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, c'est 6 millions d'abonnés. Et là, on sent que la chaîne s'appelle Doré de Platine, mais vous avez le lien dans les notes. Là, pareil, dans tous ces clips, on sent qu'on fait du simple, du brut.
On avait déjà parlé, par exemple, du clip de Bande Organisée. Tu peux mettre en comparaison du clip de PNL, par exemple, et te rendre compte qu'effectivement, c'est tout l'inverse. C'est pas papier glacé, c'est pas léché, c'est brut de décoffrage. C'est très clairement plutôt moche et assumé.
Ouais, c'est ça. Et il y en a rien à faire. Et tu le vois, effectivement, arriver chez Skyrock à la Planète Rap en claquette. Tu le vois inviter tous ses potes. Et c'est très, très. En fait, c'est. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un doigt d'honneur, tu vois, tu parlais de ça tout à l'heure, de contre-culture, parce que c'est Marseille, parce que c'est pas Paris, justement, et que si Paris dicte certains codes, et bah lui, il est arrivé avec les siens, il les a changés. Et ce que je trouve très intéressant dans l'ascension de Jul, justement, par rapport à tout ce dont on parle depuis le début, et justement de cette contre-culture, il y a un côté, tu sais, très au début, Jul, quand il est arrivé, il y avait tout un monde un petit peu parisien qui l'a méprisé, qui s'est dit c'est qui ce mec, qui sait pas parler, qui s'habille n'importe comment, avec une coupe de cheveux bizarre, etc. Et au final, il a réussi à imposer ses propres codes parce que il a réussi à fédérer une grosse audience autour de lui et il est devenu très très populaire et l'engouement populaire a porté en fait ses codes à lui au sommet et je dirais même que lui du coup il est arrivé avant cette tendance de Mosh is the new cool et que en montant il l'a fait aussi monter avec
moi, lui. Moi je suis tombé sur une interview très intéressante chez les intellos très parisiens de France Inter dans lequel il y avait quelqu'un qui disait que Jules réinventait le pacte de sincérité entre un artiste et son public. Et ça, je trouve ça très intéressant.
C'est carrément
parce
ça.
Que c'est très caractéristique de ce qu'on vit actuellement. Cette recherche de sincérité, elle passe aussi par ne pas travestir la réalité, parfois même assumer le doigt d'honneur, assumer le décalage, être à contre-courant et parfois assumer aussi le pas beau. Voilà, ouais, juste dire, je vais pas faire semblant.
Et ce que tu viens de donner comme exemple, je trouve ça extrêmement intéressant. Jules, qui a été longtemps méprisé par ses médias parisiens, aujourd'hui il est analysé sur France Inter, il fait la une de Trax Magazine qui est un magazine de musique électronique assez pointu, des personnes qui lui auraient pas donné l'heure en fait il y a 8-10 ans en arrière parce qu'il aurait dit clairement, hein, je vais les citer, c'était oh, un beauf du sud comme ça, on n'a pas envie de c'est bon de se prendre
mais,
la tête.
Mais de la même manière, je trouve que toutes les refs de Jules, elles sont vraiment intéressantes, c'est pas
c'est Dalida,
c'est Quechua et c'est même pas Nike, c'est Quechua,
ouais,
c'est Twingo plutôt que Ferrari,
oui,
c'est Casio plutôt que Rolex.
C'est ça, il débarque en stunt en scooter plutôt qu'en grosse moto.
Donc effectivement, peut-être la masterpiece en matière de mauvais goût, de moche assumé et peut-être de doigt d'honneur globalement au diktat du bon goût. C'est Jules. Ouais, les amis, on pourrait parler longtemps, je pense même qu'on pourrait écrire une thèse. Il y en a qui l'ont fait, écrire des bouquins sur cette notion de moche, de mauvais goût, de décalage, de kitsch aussi, hein, tout ça est étroitement lié. Et c'est intéressant, nous, de garder ça dans un petit coin de tête aussi, hein, quand on est marketeur, quand on est social media manager, community manager, en relation directe avec des communautés. Savoir identifier les codes de ces communautés. Et parfois, les codes, ben, c'est pas exclusivement le beau, c'est pas exclusivement le papier glacé. Les codes, ils sont parfois un peu plus complexes que ça.
Exactement.
Et le moche, le décalé, le kitsch, le mauvais goût peuvent faire aussi partie de l'équation. Voilà ce qu'on pouvait se dire, les amis, ce matin.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés et suivis. Si le sujet vous intéresse, que vous avez envie de prolonger le débat, bah, y a deux choix, hein. Soit vous venez tous les matins à 9h sur Twitch pour en discuter avec nous en direct dès la fin de l'épisode, dès la fin de l'enregistrement de l'épisode. Ou alors, si vous écoutez en podcast, comme vous êtes sûrement en train de le faire actuellement, eh ben, allez nous laisser une petite note sur Apple Podcast, un commentaire où vous voulez. Ça nous fait plaisir, ça nous fait remonter dans les algorithmes. On lit tous vos commentaires, donc n'hésitez surtout
et
pas.
Partagez la famille, c'est important.
Yes.
Merci à vous tous, on vous embrasse et on vous souhaite une très belle journée.
Ciao,
salut,
ciao.
Tout le monde, ciao.